Et bonsoir à tous, bienvenue dans Paris Central. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Paris Saint-Germain et Orléans. Un match un peu spécial sur lequel on va revenir justement en plusieurs parties. On parlera des conditions très spéciales de ce match, on parlera des jeunes joueurs et des impressions qu'ils ont données dans ce match. On donnera également nos top et flops comme d'habitude dans cette rubrique. Et aussi, ben, si on a un petit peu de temps, enfin, ben, on sélectionnera un ou deux commentaires pertinents pour lesquels on répondra en fin de chat. On se retrouve ce soir, on est avec Draya, c'est l'insupportable comme d'habitude. On est également avec Erwin que vous avez déjà vu la semaine dernière. Et on est également avec RGH, nouveau dans l'aventure, on va dire, pour ceux qui ne connaissent pas. Et bonjour à tous déjà pour commencer, ou bonsoir selon l'heure qu'il est. Comment vous allez?
On fait aller une petite victoire qui fait du bien, mine de rien, même si dans la manière, il y a peut-être des choses à redire, mais on verra ça tout à l'heure.
J'ai envie de te dire pareil, hein, un samedi soir comme un autre, tout va bien pour le moment, une petite victoire, et puis voilà quoi.
J'ai failli m'endormir deux, trois fois pendant le match, mais c'est pas très grave.
Petit décalage horaire qui ne joue pas en ta faveur, il est vrai. Et
ouais, mais il n'y a pas que le décalage horaire. Hein. Il n'y a pas que le
c'est pas
décalage
faux.
horaire qui a joué.
Mais justement, je vous propose qu'on vienne tous ensemble sur ce match, un peu spécial comme je le disais. Il y a certaines conditions qui sont à prendre en compte. Et justement, on va en parler tous ensemble. Et comme d'habitude, on va faire l'ordre des caméras. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match avec tout le contexte un peu spécial qu'il impliquait justement RG? Et je vais te laisser développer pour que tu aies quand même des choses à dire. Parce que si je dis tout le contexte spécial, vous n'avez plus grand-chose à dire derrière.
Déjà, moi, ce côté des équipes amateurs, enfin, qui ne sont pas en Ligue 1, etc., de délocaliser le match parce ils ont pas de terrain approprié, etc., je trouve ça toujours un peu compliqué, surtout pour eux, parce que bon, ils ont pas toujours les supporters au bon endroit, etc. Donc bon, comme d'habitude, la Ligue, c'est, voilà, et c'est merveille. Le PSG reste quand même un peu classe parce qu'ils ont voulu payer la moitié des billets, même si le club d'Orléans a voulu se faire des couilles en or sur les prix, on va se le dire. Donc, je trouve ça classe, comme d'habitude. Donc voilà, terrain, on en avait très peur au début, je pense qu'il l'a bien tenu quand même. Moi, j'avais une grosse frayeur, c'était quand même la titularisation de Mbappé, comme d'hab. Donc bon, au final, sans grand mal, mais bon, on va voir quelles sont les conséquences à long terme sur Mbappé notamment.
Oui.
Bah moi, c'est vrai que moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, RG, la condition du terrain, franchement, elle était un peu pitoyable, même si c'est vrai que ça a tenu, parce que quand on se rappelle que 3 jours avant, si je ne me trompe pas, on voyait déjà la pelouse qui commençait à être installée, tu disais, ça sent le match un peu ric-rac avec pas mal de taupes qu'on va voir ou quoi que ce soit. La semaine d'avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, on parlait déjà d'éclats de verre. On voyait sur le terrain, on se demandait s'il y avait une possibilité de délocaliser le match jusqu'au Parc des Princes à 1h30 d'Orléans. Là, tu dis franchement, finalement, ça a tenu. Après, pour le cas d'Orléans, quand tu parles du fait qu'ils se font des couilles au nord, il ne faut pas oublier que Orléans est dans une situation désastreuse sur le plan administratif et qu'ils sont menacés d'une relégation jusqu'en deuxième ou troisième division, encore plus bas, quoi.
Troisième, je crois.
Forcément.
Ouais,
Il pourrait être rétrogradé en N2 administrativement, mais
Ouais,
pour
N2 ou
l'instant.
N3, un truc comme ça. Donc, il faut comprendre un peu le truc. Alors, on ne justifie pas les prix, mais ça permet de comprendre un peu le contexte. Donc, forcément, voilà. Par contre, après, si on doit revenir sur ce match, bon, on s'attendait à quoi de la part d'un match de Coupe de France en vrai? Est-ce que vous croyez vraiment qu'on allait avoir du football champagne contre Orléans? Sincèrement, c'est pas
Si je
ça.
vois Twitter, c'est ce qui était attendu, j'ai l'impression. Donc,
C'est ce
bon,
qui
c'est ce
était
qui me fait peur, quoi.
attendu. Mais comme je t'ai dit, avec le trou du terrain, etc., et le fait qu'il y a quand même une équipe qui a été un poil un peu remaniée avec certains joueurs, justement, qui ont été titulaires, comme Gonçalo Ramos, etc., fallait pas s'attendre à aller avoir à 7 ou 8-0 d'entrée. Franchement, pour être honnête, on savait que ça allait être un match un peu bizarre quand même. Même si on s'impose 4 buts à 1, franchement, le reste ne me surprend absolument pas.
Z du coup.
Bah, le truc, c'est t'attendre à avoir 7-8-0, peut-être pas, c'est sûr. Mais après, le truc, c'est que tu commences le match pendant un quart d'heure, c'est enthousiasmant au niveau des mouvements. Et tu finis dans une gabegie, pour essayer d'utiliser un mot que je maîtrise même pas. Mais en gros, un match relativement purgesque, en tout cas au niveau des intentions. Il y a les buts qui sont venus égayer tout ça. Et c'est tant mieux, on est tous contents de l'avoir gagné. Enfin, c'est un match de coupe, match piège, enfin le contexte, tout a été dit sur la pelouse, sur le froid, sur etc. etc. Donc tu es content de l'avoir gagné. C'est un bon match, tu l'as gagné. Mais putain, dans le jeu, l'incapacité de passer devant avec entre autres Marquis et Danilo qui connaissaient pas Soler. Enfin, je pense qu'ils avaient oublié le numéro de téléphone ou il y a quelque chose qui se passait dans la connexion. Un milieu de terrain qui était incapable de trouver des solutions pour trouver un temps d'avance, des offensives qui ont montré peut-être quelque chose un peu intéressante. On peut parler de Ramos et de Randal Kolo Muani qui ont montré de la volonté au moins, mais qui fondamentalement n'arrivaient pas à trouver des solutions. Pendant un moment, j'étais en train de me dire, attends, vas-y, on va faire les tops du match. J'étais là, bon, j'en ai un, c'est Danilo, j'en ai un autre, c'est Danilo, j'en ai un troisième, c'est Danilo. J'avais du mal à en trouver un autre. Après, tu peux pas oublier Kylian qui fait le match à l'arrivée, parce qu'au niveau statistique, il y a les jeunes qui font plaisir, mais c'est un match que tu dois plier plus tôt. Oui, je sais que Orléans montre des choses positives, mais tu dois le plier plus tôt. C'est en une mi-temps, tu dois faire mieux que ça. On était trop faible dans le jeu et c'était pas satisfaisant à ce niveau-là, quoi.
Alors justement, pour clôturer le sujet, je dirais que oui, effectivement, il fallait limiter la prise de risque. J'en parlais ce midi, pour ceux qui ont déjà vu le live de ce midi, tu jouais un match un peu piège en sachant que tu allais jouer la Ligue des Champions 3 semaines après. Il fallait surtout éviter les blessures. Moi, j'étais pour aligner carrément l'équipe Z, j'avais dit en rigolant ce midi. Bon, elle a fait le taf, j'avais dit 6 buts. J'ai peut-être un peu forcé, il est vrai, avec la présence de Kylian Mbappé. En attendant, le PSG se qualifie. On savait que dans le jeu, ça n'allait pas être super flambant et ça va nous amener justement à des choses, comment dire, un peu plus joyeuse. On va parler de choses qui font plaisir et on va refaire l'ordre des caméras. Et là, vous allez voir, j'étais bon dans le jonglage. Ouais, c'est bon, j'ai remis tout le monde à sa place. Et justement, pour parler des choses qui font plaisir, je vous propose qu'on parle des jeunes joueurs du PSG qui ont joué aujourd'hui. Et on va faire un point. Et bon, pour pas que chacun monopolise la parole trop longtemps, on va faire joueur par joueur et on fera par ordre des caméras comme on fait d'habitude. Et je commence par RG du coup. J'allais te demander, pour commencer, qu'est-ce que tu as pensé de celui qui a joué le plus longtemps, c'est-à-dire Lucas Beraldo.
Il était intéressant, je trouve. Je trouve qu'il apporte vraiment une sérénité technique, en tout cas, et on en avait vraiment besoin, parce que Danilo et Skriniar, depuis le début de la saison, plus Donnarumma, c'est très très compliqué. Donc, agréablement surpris. Il a eu une petite frayeur sur une faute un peu avant la mi-temps, une faute évitable où il offre un coup franc assez intéressant à Orléans. Donc c'était une faute d'inexpérience, on va dire, mais techniquement très propre. Il a essayé de dédoubler 2-3 fois, il a essayé de centrer. Donc bon, ouais, c'est intéressant. Encore une fois, il fait beaucoup penser à Marquinhos à son arrivée. Donc voilà, j'attends de voir face à une plus grosse adversité. Et encore une fois, c'est un gaucher aussi. Donc c'est tactiquement, il apporte une variété. Mais après, je pense toujours qu'il faudra une recrue, soit toujours en défense centrale, soit à gauche.
Erwin.
À part le carton jaune qui concède, je crois que c'est avant la fin de la première mi-temps, où tu dis on aurait pu concéder un coup franc extrêmement dangereux pour Orléans. Je trouve que techniquement, il a plutôt été propre. Il a montré quand même une certaine sérénité. Bon, après, ok, ce n'est qu'Orléans en face, mais ça montre quand même quelque chose. Le seul truc, c'est le fait de le faire jouer encore latéral gauche. Ça m'énerve un petit peu parce qu'on voit très bien que… Alors, même s'il essayait un petit peu, mais tu sentais vraiment que c'est en défense centrale de base et que latéral gauche, c'est pas vraiment son poste. Donc, en vrai,
c'est pas latéral gauche. C'est
hybride.
Défense à trois.
J'essaie de développer quand même son avis. C'est assez hybride. C'est comme Lucas Hernandez quand il joue à ce poste. Au final, tu as bien vu, il reste dans la ligne des trois.
C'est comme à City, c'est Guardiola qui joue troisième défenseur central.
Excellente comparaison au passage d'ailleurs, Hergé.
C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il serait peut-être un peu mieux dans un schéma avec deux défenseurs, lui dans l'axe, avec probablement soit Marquinhos, soit Danilo, etc. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui peut apporter notamment dans la profondeur, ce qui est très important pour un défenseur aujourd'hui. Donc globalement, ouais. Performance satisfaisante de la part de Beraldo, donc à voir pour la suite.
Et toi, Daria, justement, on sait que tu aimes bien être le monsieur pas content avec Basto de l'émission. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de Beraldo?
Déjà, par rapport à Basto, il cherchait le trait d'union entre Kolo et Muani. Le trait d'union, il s'appelle Randal et c'est pas un très beau trait d'union. Mais indépendamment de ça, moi, je vais être très sévère avec Beraldo. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui m'a tapé dans l'œil et donc j'attends beaucoup de lui. Et je l'ai trouvé beaucoup trop timide. Oui, je suis beaucoup trop sévère. Hein. Je sais que je suis beaucoup trop sévère, mais il m'a vraiment tapé dans l'œil. C'est un défenseur central qui est élégant, qui est très bon au pied et qui a montré mieux. Alors, j'attends pas forcément de lui qu'il soit capable de percer balle au pied. Là-dessus, il l'a pas fait du match. Mais s'il perce pas balle au pied, il doit trouver des meilleures passes. Et je l'ai trouvé dans l'ensemble timide. Après, il a fait son match. Il a fait son match. Il est intéressant. Mais c'est un joueur j'attends juste beaucoup plus que lui, de lui. Et je pense que dans des matchs comme ça, il va falloir qu'il se laisse pousser un peu les dents, qu'il en montre un petit peu plus, qu'il montre un petit peu plus d'envie, tout simplement pour qu'il montre qu'il a sa place dans cette charnière. Il y a de la place en plus à en prendre hein, dans la charnière avec notamment l'absence de Kimpembe qui n'en finit jamais, l'absence de Skriniar qui est effective, mais Kimpembe qui ne revient pas. Il y a vraiment de la place à prendre et j'attends de lui qu'il montre qu'il est dans un peu plus long parce que c'est un joueur qui m'a tapé dans l'œil et je l'ai trouvé beaucoup trop timide ce soir.
Alors justement, pour rebondir sur le commentaire de Matt Bones, que je trouve d'ailleurs très pertinent, il faut rappeler que Beraldo, il est brésilien, il a joué championnat brésilien et pas européen. Ça veut dire que lui, il n'a pas démarré sa saison en septembre. Ça veut dire qu'il a démarré il y a presque un an sa saison, et là il va enchaîner sur une saison et demie. Donc ça veut dire qu'on parle d'un des rares mecs dans le foot moderne. Je pense que si on fait la liste des joueurs qui ont enchaîné, une saison et demie sans s'arrêter, il n'y en a pas beaucoup. Lui, il n'a pas pris de vacances. Ça veut dire que lui, il a coupé sa saison, il a bouclé son transfert avec nous, et là il joue déjà. Moi, je m'attendais à ce qu'il mette du temps à venir, mais il joue déjà. Alors oui, bien sûr, Tomso, tu n'arriveras pas à en tirer le meilleur tout de suite, en sachant qu'il joue un rôle hybride, comme on le disait avec Erwin. Ben en fait, il joue le rôle hybride que joue Lucas Hernandez quand Lucas Hernandez est titulaire. Ça veut dire que Soler va se greffer au milieu parmi les deux autres milieux, et lui, il va rester dans la défense à 3. Donc forcément, oui, je pense que Beraldo sera largement mieux utilisé si tu le mets dans une défense centrale à 4 en tant que défenseur central, mais je trouve que parmi les joueurs qui étaient disponibles pour ce poste, ben peut-être que c'était le joueur le plus pertinent à mettre à ce poste. Donc oui, bien sûr, on peut en attendre plus, ça restait Orléans en face, on va pas se mentir, on n'a pas joué contre le Bayern de Orléans, mais quand même, il faut dire que la prestation est correcte, même si je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Le jeune un peu stupide gâche un peu cette performance, mais je pense que c'est un joueur qui montre des qualités intéressantes. Et comme on sait que Lucas Hernandez est un joueur qui se blesse beaucoup, il y a moyen de le voir plus souvent. Et maintenant, je vais un peu inverser l'ordre des caméras. Hop là, petit zoom. Ouh, j'ai fait pas mal cette fois. Et maintenant, j'ai demandé l'avis à Erwin cette fois en premier. Qu'est-ce que tu as pensé ? Bon, là, on va parler d'entrée parce que les deux joueurs en question n'ont pas été titulaires. Qu'est-ce que tu as pensé de l'entrée du coup de Ethan Mbappé, que ben, on pourrait penser qu'il joue uniquement grâce à son nom de famille, mais j'en suis pas aussi certain.
Bah, tu sens qu'il veut tenter de faire la différence balle au pied. Donc, alors évidemment, on va toujours chercher à avoir la comparaison avec son grand frère pour voir qu'est-ce qu'il apporte de plus ou quoi que ce soit. Mais je trouve qu'en vrai, il a voulu rentrer directement dans le match. Il est, contrairement à certains joueurs qui ont passé leur temps à littéralement marcher, dont un en particulier, mais lui, ce sera pour plus tard. Je trouve qu'il a quand même tenté de vouloir faire quelque chose en particulier avec le ballon. Donc, même si, ok, c'est, on va toujours dire le côté c'était corlé en face ou quoi que ce soit. Mais je trouve qu'en fait, ouais, c'était une entrée plutôt satisfaisante. Alors, ok, il n'a pas fait grand chose à se mettre sous la dent. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une part de vouloir jouer. Je trouve que c'est positif, surtout pour la suite.
Bonne question, Sonny. On y reviendra plus tard, tu sais quoi. Justement, bah, toi, Drias, qu'est-ce que tu as pensé du petit frère Mbappé ?
Pas grand-chose à en dire sur ce match, en vrai. Pas grand-chose à en dire. Il rentre en fin de match, il est relativement intéressant, il rentre plus côté gauche. Il a montré une petite aptitude, il a essayé de se proposer pour les passes, mais entre le temps de jeu qu'il a eu, les opportunités, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Peut-être que je n'étais pas été assez attentif, mais perso, c'est un joueur qui m'a tapé dans l'œil en début de saison. Maintenant, je pense qu'il est encore un peu frêle physiquement et j'ai l'impression d'ailleurs qu'il a travaillé physiquement. J'ai l'impression que par rapport au début de saison, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'il s'est un petit peu, il a acquis un peu en masse musculaire.
Comme son grand frère.
Il a peut-être justement dans cette phase entre digérer la nouvelle masse musculaire et retrouver la liberté avec son corps qu'il avait en début de saison. Mais sur le match de ce soir, j'ai pas grand chose à en dire en vrai.
Non, mais t'as raison. Après, on va pas se mentir, il a pas tapé dans l'œil sur ce match. Mais vas-y, Hergé.
Complètement d'accord avec Drias. En vrai, moi, ce qui me dérange, en fait, ça montre plutôt les manques de l'effectif, c'est qu'il soit rentré en tant que latéral gauche. Là, j'ai regardé la feuille de match, Mukiele, il n'est pas dedans. Bon, ce qui paraît, il s'est pris un gros ballon dans la tête ce matin à l'entraînement, je ne sais pas quoi, mais en fait, bon, déjà, on le sentait que Enrique ne lui fait pas confiance. Je trouve ça dérangeant, en fait. parce qu'il y a de la place. Kurzawa n'est pas parti aussi pour une histoire de liste, etc. Il n'est jamais sur le bon, donc tant qu'il est là, j'ai envie de dire, utilise-le. Et en plus, il y a quelque chose dont on ne parle pas assez, c'est le départ de Bernat en prêt. Je pense que Bernat, c'est pas une pipe. Dans ce rôle-là, qui a Hernandez et qui avait aujourd'hui Berardo, il aurait largement fait l'affaire. Donc voilà, pour moi, ce sont des choix qui sont inexplicables et là, t'en fais pas. Enfin, tu limites la, enfin, tu t'entraves la progression de tes joueurs, notamment Zaïre Emery à droite et maintenant Ethan Mbappé à gauche. Je trouve ça dérangeant.
J'entends. Vous avez donné tout le monde pour Ethan Mbappé?
Bah oui.
Ouais, bah du coup, bah, je vais aller sur. Bah, j'ai donné mon avis en vite fait, c'est vrai, j'avais oublié. Bah, Ethan Mbappé, bon, bah, comme l'a dit Daria, ça, on va pas se mentir. C'est pas forcément sur ce match que tu vas en tirer le plus et le plus intéressant. On va dire, si tu arrives à tirer une analyse intéressante du match de Ethan Mbappé, c'est que littéralement, tu as fait une focus que sur lui et que vraiment, tu es un mec qui regarde les déplacements, le jeu sans ballon à un niveau très extrême. Je n'ai pas cette capacité, je ne vais pas mentir. Non, bah en fait, Mbappé, je vais dire ce que j'ai déjà dit sur lui. Je pense que c'est un joueur qui, ce qui est assez drôle, est totalement à l'opposé de son frère sur le terrain. Il est gaucher et pas droitier. Il pense d'abord à l'équipe avant de penser à ce que lui va faire avec le ballon. Et je trouve ça assez intéressant. Et lui, il est dans un rôle, mais au final, beaucoup plus défensif. C'est un milieu très défensif. La preuve, dès qu'il rentre, comme vous l'avez souligné dans le chat, il rentre beaucoup à ce poste de assez hybride arrière-gauche défenseur central. Ou au milieu en tant que milieu défensif, comme il avait fait contre le Havre. Donc je pense que oui, il y a des manques à ce poste. Est-ce que Bernat aurait dû rester? Bah, Luis Enrique ne le sélectionnait pas à l'époque en sélection, même quand il y avait beaucoup de blessés. Et je pense que s'il a fait le choix de ne pas le garder, c'est qu'il sait pourquoi il ne l'a pas gardé. En revanche, ceux qui connaissent mon avis savent que bah, moi, j'aimerais bien qu'on recrute un latéral gauche sur le mercato. On a raté Metsen, on a raté Madsen. Je vous invite à voir ses performances avec Dortmund au passage, mais il existe encore Quentin Merlin qui sauverait quand même pas mal des miches. Mais je vous invite du coup à donner votre avis, et cette fois je vais totalement encore inverser les caméras. J'aimerais bien avoir votre avis sur le dernier jeune qui a fait son entrée ce soir, et cette fois on va parler de Seni Mayulu. Et oui, forcément, pour celui qui avait demandé dans le chat, on va parler de Seni Mayulu. Vas-y, David.
C'est moi qui vais du coup?
Alors, il y a hors des caméras, c'est toi
Ah,
qui commence.
ok, d'accord. Bah, déjà, il nous a fait un petit moment ultra bright. Il y a eu un moment, c'était un moment bonheur. C'est le petit sourire qu'il avait où il était gêné, il était content et tu voyais, enfin, ça fait plaisir. C'est son premier but en pro. Il le fait sur beIN. Tu voyais le bonheur du joueur. Son but est formidable. Son but est formidable. Il a montré une envie folle. Sur le peu de temps de jeu qu'il a eu, il a mis un but fou. Après, aller tirer des conclusions sur la comète, on en est encore loin. Mais en tout cas, c'est très prometteur. On a un jeune de 17 ans, décidément. Tu prends Warren, t'as l'impression que 17 ans, c'est le bon âge au Paris Saint-Germain. Il est rentré, il a monté de l'envie. Il y a de l'embouteillage devant. Donc après, j'ai cru comprendre qu'il pouvait aussi jouer un petit peu au milieu. C'est un joueur qui est offensif, mais qui peut jouer au milieu. Donc à voir s'il va réussir à grappiller du temps de jeu. Mais il a montré quelque chose de très très beau. Et son but est très très beau. Et vraiment la gueule qu'il avait juste après, elle était juste magique, quoi.
RG.
Je suis d'accord, hein. C'est vrai que ça fait plaisir. Celui-là, il tentait des choses. C'est vrai que là, bon, le contexte était un peu favorable. Donc il tentait et ça a payé. Donc un joli but. Et tu vois qu'il a complètement exalté. C'est une image qui fait assez plaisir parce que d'autres Titi ont attendu assez longtemps avant de marquer. Donc en fait, j'espère qu'il va avoir un peu de temps de jeu. Après, c'est vrai que ça m'a l'air un peu bouché, notamment devant. Peut-être à voir s'il a la chance, entre guillemets, d'avoir des blessures d'autres joueurs, mais c'est prometteur. On va voir ce que ça donne.
Moi, j'ai envie de dire surtout que, alors, c'est un but qui marque, franchement, c'est un très joli but. Et il y a aussi un truc qui est sorti, je crois, qui fait partie maintenant du groupe élite, de ceux
C'est
des
ça.
jeunes, en fait, qui vont justement intégrer le groupe pro, etc. Donc, et comme tu l'as dit tout à l'heure, Hergé, faut pas oublier que le Paris Saint-Germain joue en général entre 45, 50, 55 matchs par saison, voire un peu moins, ça dépend. Et, ok.
Non, mais derrière, s'il fait ça direct, non, mais merci,
Non, non,
je
parce que
connais ce que tu offres,
voilà.
mais vas-y, Arwin.
Non, mais parce que, et donc tu te dis que en termes de temps de jeu, on n'est pas à l'abri qu'il ait quelques petits matchs par-ci par-là ou des entrées à 10 minutes de
Entrée.
la fin quand le match est un peu bouclé, quoi que ce soit. Donc si ça peut lui donner en fait de l'assurance et pour dire qu'en fait n'importe qui peut jouer et que tu as intérêt en fait à bien travailler comme tu le fais à l'entraînement depuis le début de la saison, bah, il n'y a pas de mal à ce que tu aies quelques petites minutes de pourquoi pas au parc pour briller.
Et pour le coup, Luis Enrique a beaucoup évolué. Il faut dire que quand il était au Barça, il n'a pas forcément fait beaucoup jouer plus les jeunes que ça. À la Roma, quand même, il a eu le courage de mettre Totti sur le banc pour lancer des jeunes.
Oui, oui, quand même au Barça. Si, si, il y en a. C'est juste qu'ils n'ont pas.
Non, au Barça, il faut dire ce qu'il y a. Après. Ah non, non les le Barça, Mouni, il arrive à une époque où il y a un creux générationnel. Ce n'est pas la génération de Fabregas.
Si, si, il y a eu des Mounir. Il y a eu des Mounir. Comment il s'appelait le milieu là?
Mounir El Haddadi. Il y en a eu. Ah, youpi. Et vas-y, après.
Non, mais oui, mais c'est des joueurs qui n'ont pas confirmé.
Un milieu qui devait remplacer Rakitic, mais j'ai oublié son nom.
Alen Halilovic, qui est confirmé, qui a fini la semaine passée. Donc oui, il n'avait pas le bon matos pour le faire à Barcelone.
Sandro Ramirez. Si, si, il y a eu des joueurs. C'est juste qu'ils étaient moyens. C'est juste ça la vérité.
Et voilà, c'est ce que je te dis. Donc, quand tu vois en Espagne, par contre, il a pris des risques. En Espagne, il s'est permis de mettre Gavi, 17 ans, titulaire en faux neuf. Il a mis Pedri, 17 ans, titulaire à l'Euro. Il a remplacé des joueurs qui sont quand même de haut niveau. Hein. Regarde, Eric Garcia, aussi 19 ans, jouait titulaire à l'Euro en concurrence avec
Potter. Pour moi, c'est par rapport à la qualité du joueur. C'est aussi simple que ça.
Luis Enrique, tu vois, il est un peu adepte de ce que parlait Kylian. Tu lui parles pas d'âge. Si tu es cohérent et que tu fais ce que lui demande, bah, il y a des chances que tu joues. Donc, au final, c'est Nima Youlou. Je pense qu'il a toutes ses chances finalement d'avoir du temps de jeu. S'il fait ce que Luis Enrique attend de lui à l'entraînement, bah, il sera récompensé en match à un moment. Alors je te dis pas que c'est Nima Youlou, on va le voir jouer en Ligue des Champions parce que je te vois venir Z.
Mais ouais, tu le vois prendre la place de qui là? Le non, truc, non, c'est que tu es en bouteillage devant juste, pour l'instant.
Je te dis juste, s'il est performant et qu'il fait ce qu'il fait à l'entraînement, je te rappelle qu'il y en a d'autres qui sont sabotés en attaque et on en a parlé un peu plus tôt aujourd'hui. Je pense que Mayoulou, il y a moyen qu'il rentre dans des matchs, tu vois, de faible portée entre deux matchs de Ligue des Champions contre une équipe un peu faible où il faut que tu fasses tourner. Il pourra avoir du temps de jeu. Oui, je te dis pas qu'il arrive et s'il est performant, il va jouer avec des champions. Justement, il fallait me laisser finir, tu vois.
Mais tu t'assois sur beaucoup de millions si tu commences à le faire jouer dans les matchs mais en bois. T'as des millions qui vont jouer que les matchs en bois déjà, en fait. C'est ça le problème.
On a compris.
En fait, ça fait penser un peu au cas Nkunku. Nkunku, c'était exactement ça. Pendant la saison Tourelle, la première saison Tourelle, avant qu'il soit vendu, c'était exactement ça. Il a joué des bribes de match, après il est rentré, il a été titulaire pendant quand il y avait 25 blessures. Il a fait ses matchs et c'est comme ça qu'on a réussi à le vendre 25 millions. Quoi. Donc, je pense que c'est un peu le scénario qui se dégage pour l'instant.
Alors pour te répondre, Freddy, sur Endur, il a montré, hein, Luis Enrique, il s'en fout de ton âge. Si tu es performant, tu joues. Donc si Endur ne joue pas, c'est peut-être parce que Endur ne correspond pas à ce que Luis Enrique veut qu'il fasse à son poste, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais.
Bon, il était bon au tour d'avant. Quoi, donc,
mais c'est pas qu'une histoire de niveau. Parce que regarde, par exemple, Skriniar, il a prouvé que c'est un défenseur de haut niveau. Il a déjà été meilleur défenseur de Serie A. Ugarte, il a prouvé qu'il était au niveau. C'est pas qu'une histoire de niveau. C'est est-ce que ton profil aussi correspond à ce que ton coach il veut de toi. Et Endur, il est arrivé libre avant que Luis Enrique débarque au PSG. Donc peut-être que Luis Enrique... Peut-être que Ndour, ce n'est pas forcément le profil qui correspond à Luis Enrique. On ne parle pas de niveau. Ça ne veut pas dire que Ndour est nul et n'a aucun avenir. Tu vois. C'est deux choses différentes. Mais justement, maintenant qu'on s'est un peu fait plaisir en parlant des jeunes joueurs à potentiel de cet effectif et de leur match justement contre nos amis d'Orléans, je vous propose qu'on passe à la rubrique que le chat préfère, je crois. Hein, c'est la rubrique du feu, du sang. Là, je sais que le chat va aller à une telle vitesse que malheureusement, je ne pourrais pas faire monter tout le monde à l'écran. Désolé si j'en oublie certains. Mais j'allais vous demander, cette fois, j'ai encore inversé l'ordre des caméras. Justement, les gars, c'est quoi vos top et flop?
Tu veux pas parler du... Ouais, ok.
T'inquiète, on reviendra.
Et du coup, j'y vais, moi?
Bah, c'est du coup, hors des caméras, ouais.
Danilo. Danilo, monstrueux. Monstrueux. Marquinhos a été bon aussi, mais Danilo. Après, ça, c'est la problématique avec Bastos. C'est que vaut Danilo quand ton équipe, ton collectif est parfaitement léché. Et à ce moment-là, est-ce que c'est le joueur le plus idoine? Mais dès qu'il y a quelque chose de déstructuré dans ton collectif, il apporte une structure. Il a été intelligent dans son à propos, intelligent dans sa manière de tenir l'équipe. Danilo, top. En deuxième, tu vas mettre Kylian Mbappé. Mettre Kylian Mbappé parce que deux buts, une passe décisive, il fait le match quasi à lui tout seul, même s'il y a des choses qui sont décevantes. Et en troisième,
tu peux pas la passe D sur.
Hein? Tu peux la passe D sur but de Mayulo?
Il me semble qu'il y a deux buts de passe D.
Voilà, donc c'est impossible de pas le toper. Et en troisième, c'est assez difficile et du coup, je vais aller chercher Mayulo pour aller chercher un petit jeune. Les autres, il n'y en a pas un qui vraiment mérite pour moi qui a vraiment topé, quoi. Et pour les flops, du coup, j'enchaîne les deux, c'est ça?
Vas-y.
Ok, bah, pour les flops, bah, on va flopper Solaire, même si ce n'est pas que de sa faute. Mais vraiment, sur son couloir droit, ça a été la Bérésina. D'une manière générale, le couloir droit a servi à rien sur ce match. Sinon, bah, Randall. Y a des choses à dire de positif sur son match, mais il y en a plus à dire sur le match de Ramos. Des fois, des passes directes à l'adversaire. Enfin, il y a un moment où c'est un petit peu fatigant, il est un petit peu saoulé par ce joueur. Donc, c'est difficile de ne pas le citer. Et troisième flop, est-ce que j'en ai un troisième?
T'es pas obligé. Si tu
vous allez en citer, je vais me dire oui, au milieu. Bah, au milieu, si tu veux, les joueurs, Viti, il essaye de faire son match, c'est trop timide, mais de là au, là, au point de le flopper, je sais pas. T'avais qui d'autre quoi, au milieu déjà? Ruiz dans le premier quart d'heure où t'es intéressant. Ruiz, il est à la baguette, c'est lui qui fait quasiment tout, c'est lui qui lance ton équipe. Alors après, il disparaît au bout d'un quart d'heure, mais pendant un quart d'heure, c'est quasiment lui qui fait. Enfin. Non, moi je le flopperai pas perso.
Je te force pas. C'était top, c'était flop. Et si t'en sors pas, bah écoute, les autres donnent leur avis.
Bah alors, personnellement, oui, top, je mettrais quand même Marquinhos parce que j'avoue que j'aurais pu penser à Danilo Pereira et notamment pour RG parce qu'on a eu pas mal de débats concernant Danilo Pereira et c'est très bien de quoi je parle.
J'y viens.
mais après Martinez, j'ai trouvé quand même assez rassurant, même si, OK, il y a le but sur corner à la fin, mais bon, c'est pas vraiment de sa faute. Bah, Mbappé, bah, forcément, quand tu fais deux buts, deux passes décisives, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Et après, en troisième, bon, bah, j'avoue, comme dirait aussi Z, bah, l'entrée de Mayolou qui aurait récompensé par un petit but à la fin qui était plutôt mignon à voir. En flop, je pense que je vais mettre Vitinha, parce que bon, c'était trop timide, comme tu l'as dit, mais il y avait des moments, tu as l'impression que les prises d'initiative, il arrête. En fait, le problème avec Vitinha, c'est que tantôt il a des prises d'initiative, et la seconde d'après, tu sais pas pourquoi, il arrête. Un moment, tu vois qu'il peut avancer avec le ballon, qu'il peut faire la passe justement pour casser la ligne, et ne le fait pas. Mais la seconde d'après, il va le faire, mais il va se foirer. Donc en fait, tu as l'impression qu'il joue avec le frein à main, donc c'est un peu frustrant. Fabien Ruiz, j'ai pas du tout aimé son match. Alors, tout à l'heure, tu disais 10-15 minutes, ok, mais un match, ça ne dure pas 10-15 minutes, ça dure au moins 85-90 minutes. Et je suis désolé, pour une équipe de national, tu dois faire beaucoup plus que ça, c'est normal. Donc, en vrai, pour moi, le match de Fabien Ruiz, dépité.
Comme c'est son avis.
Mais si tu es juste sur Ruiz, juste pour lancer vite fait le débat, en fait.
Non,
on n'a pas le droit au débat.
Okay, laisse-le finir ses top et flop, okay, t'inquiète. On reviendra après, t'inquiète, quand on aura fini les top et flop, on reviendra sur certains débats avec grand plaisir, mais juste laisse-le finir ses top et flop.
Et après, bon, je pense qu'en dernier, je dirais probablement Kolo Muani, parce que, en fait, moi, le problème de Kolo Muani, j'ai l'impression qu'il avait joué sans réellement envie. Ok, il a fait une passe décisive pour le premier but d'Mbappé, mais après, le reste du match, t'as l'impression qu'il était là, mais sans être là. Genre, tous les contrôles, les pertes de balles, la façon de marcher en Timberland, tu as envie de te dire, bon, Coco, tu as envie de jouer le match ou tu n'as pas envie de jouer? Si tu n'as pas envie de jouer, tu peux rentrer, il n'y a pas de problème. Hein. On ne te force pas forcément. Ok, tu as ton salaire, mais tu es footballeur avant tout, tu as le droit de jouer quand même au bout d'un moment. Donc, stop, quoi.
En fait, je vais commencer par mes flops parce que par rapport à Kolo Muani, je trouve, en fait, c'est pas une question d'envie. En fait, j'ai l'impression qu'il est résigné. À un moment, je l'ai vu avec une tête, il avait l'air mais perdu, en fait. Et j'ai l'impression que tout ce qu'il fait, c'est à contre-temps ou c'est mal fait. Il doit accélérer, là il stoppe. Il doit stopper, là il accélère. Et en fait, il n'y a jamais le bon tempo. Un contrôle simple, il rate. Un appel simple, il le fait pas. Honnêtement, je comprends pas, en fait, ce qui se passe. Je suis vraiment dubitatif. Donc, évidemment, donc, premier flop. Le deuxième, c'est Asensio. Je vais expliquer pourquoi, parce que c'est tactiquement où là, en fait, il était censé être ailier droit pour moi, avec une attaque à deux qui était Kolo ou Mbappé avec Ramos. Et bah, Asensio, il a déserté son couloir droit. Mais c'est même pas, il a déserté, c'est qu'il a joué parfois ailier gauche. Donc, on avait quatre joueurs à gauche, plus Beraldo, et on avait Soler à droite qui était là. Allô, je veux le ballon. Non, à un moment, et du coup, mon dernier flop, ça sera Monsieur Luis Enrique. Pour deux raisons. Pour ça, parce que Asensio, à un moment, si tu respectes pas le schéma tactique de ton coach, un grand coach, il te dit, t'es bien gentil, mais à la mi-temps, tu sors. Thierry Henry, on la connaît tous cette histoire, face à je sais pas qui en Ligue des Champions au Barça, il a fait le beau gosse, il est allé au côté droit avec Messi, il a joué à la baballe, il a marqué. Pep Guardiola, il lui a dit, t'es gentil, mais tu sors. En fait, c'est ça un grand coach. Et je trouve que Enrique a la sévérité et a l'envie de faire de son équipe une grande équipe. Bah, ça doit passer par cette attitude-là, en fait. Et du coup, et deuxième chose pour Enrique, c'est la titularisation de Mbappé. Alors oui, Mbappé a mis deux buts et deux passes décisives. C'est bon, ça passe à une D3, il n'y a pas de souci. C'est un des meilleurs joueurs du monde, il n'y a pas de souci, encore une fois. S'il se
J'ai fait
blesse,
une
qu'est-ce qui se
boulette.
passe?
J'ai fait une boulette. Je voulais temporairement ban Cédric et sans faire exprès, j'ai ban Sébastien Guimerès. Je ne sais pas comment
Guimenez,
on fait.
oui, génial, un des premiers auditeurs
Mais
de
oui,
l'émission, t'as fait très
mec,
très fort.
pardon.
Génial.
C'est une erreur de manip de ma part. C'est
Bah
une erreur de
écoute,
manip de
j'ai
ma
demandé
part.
à Nix qui corrige ça, mais ouais, super,
Ouais,
en effet,
voilà.
ouais,
Et
il l'a
du coup,
senti, il va adorer.
Cédric, il est fatigant. Donc voilà, Cédric, il est un petit peu fatigant à force. Bah vas-y. Et pardon, Sébastien, ça va être résolu. C'est vraiment une grosse boulette de ma part. Et je peux répondre sur Ruiz ou tu veux y aller sur tes tops et tes flops avant ton tour du coup?
Non, après, je pense pas que j'aie rajouté grand-chose au débat du top et flop. Donc
Donc, ah bah,
maintenant, donc
j'y vais
maintenant
sur
qu'on a
Ruiz
fini
alors.
là-dessus, vous pouvez
J'y vais
discuter tous
sur
les deux
Ruiz.
de Fabian Ruiz et je vais vous mettre
Alors,
en face à face.
j'y vais sur Ruiz. J'y vais sur Ruiz très rapidement. Ouais, c'est vrai qu'il a été bon qu'un quart d'heure, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu mets pas tous ceux qui ont été hachés pendant 90 minutes, quoi? Mine de rien, un quart d'heure, c'est déjà un quart d'heure par rapport à des joueurs qui n'ont rien fait pendant 90 minutes, qui ont été en dessous 90 minutes, qui ont montré une envie très limitée pendant 90 minutes. Et ensuite de ça, bah, dans les 70 minutes qui ont suivi, en quoi Ruiz a été si inférieur que ça de Vitinha? Il n'a pas été au niveau, on est d'accord. Il a été jusqu'à sa sortie. D'ailleurs, ce n'est pas 70 parce qu'il est sorti à la 75, donc c'est 60 minutes. Mais au moins, pendant ce quart d'heure, il a permis. C'est le seul moment où tu as vu le Paris Saint-Germain développer un jeu, où tu as vu le Paris Saint-Germain développer quelque chose, bah, c'était lui qui était à la baguette. Et mine de rien, c'est un poste sur lequel on a pas mal d'interrogations, notamment avec Ugarte qui est complètement incompatible. En tout cas, de ce qu'il apparaît avec Enrique, et Ruiz peut apparaître comme une solution. Et moi, j'ai envie de mettre le focus sur ce quart d'heure. Alors après, je vais pas le toper, tu vois, parce qu'un quart d'heure, je suis d'accord avec toi, ça suffit pas. Mais si jamais tu le disqualifies parce qu'il n'a fait qu'un bon quart d'heure et que le reste était médiocre, que fais-tu de ceux qui ont été médiocres pendant 90 minutes? Dans ce cas-là, enfin, t'as quasi 8 flops dans l'équipe, en fait.
Vas-y, si tu veux
Bah.
rajouter quelque chose, peut-être. Ah, vas-y, Hergé, je croyais qu'il y avait une fin à répondre, mais.
En fait, je trouve que avoir deux créateurs dans un double pivot avec quatre attaquants, c'est inefficace parce qu'en fait, ils vont jouer avec le ballon, mais à un moment, il faut des appels qui concordent. Et déjà, les quatre ensemble, bon, déjà, je crois que c'est très peu arrivé. Donc, au niveau des appels, il y en a un qui va en profondeur, l'autre aussi, l'autre qui va à droite, c'est jamais coordonné. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est ce que je me suis dit pendant un moment, après le début de la deuxième période, on a senti une équipe du PSG très timide. Et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est logique qu'ils ne veulent pas prendre de risques parce que, avec les risques que l'adversaire a pris, en contre, si on se fait prendre et on se prend un but, les deux là, ils sont morts. Avec une paire de
Ça
balles, ils
peut
sont
être,
morts. Et
ça
c'est en
peut être.
fait, et je pense que c'est
Ça
une
peut être
intention
aussi.
de Enrique. Et ça, j'allais y venir un peu plus tard, qu'en général, depuis son arrivée, c'est pourquoi il gueule à chaque fois qu'on dégage ou qu'on joue long. C'est pas on ne jouera jamais long. C'est non, d'abord on apprend à jouer court, 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 court. Jouer très vite, on sait le faire. Donc venez, on apprend autre chose. Et après, on adaptera. C'est exactement ce qu'a fait Klopp à son arrivée à Liverpool, ou comme c'est ce qu'a fait Guardiola à City sa première
Mais
année.
après.
Et les deux années sont très mauvaises d'ailleurs. Des deux coachs, elles sont assez mauvaises. Mais ouais,
Mais
Je donne
après,
juste un exemple. Non, en vrai, vas-y, vas-y, pardon.
mais après,
Erwan, attends, est-ce
déjà,
que Erwin voulait peut-être ajouter quelque chose, Z? Parce que je vous
déjà.
ai laissé parler,
Ah,
toi
non,
et Hervé.
mais en fait, je voudrais bien écouter ce que va dire Z d'abord avant de réagir. Donc,
Ouais.
OK.
Bah, déjà, non, non, y a rien à dire sur ce joueur, Bastos. Je suis désolé, mais c'est juste, il est frustrant. Il faut dire une chose, c'est qu'il a montré plus d'envie ce soir, même si, encore une fois, tout le monde l'a noté, il était dépressif. Mais bon, le joueur qui fait 5 passes à l'adversaire directement, alors qu'il n'est même pas pressé sur un jeu, y a rien à ajouter sur ce joueur, en fait. Et après, sur ce que disait Hergé, c'est intéressant. Mais la problématique, elle se pose dès que tu vas avoir, en fait, Ramos et Mbappé en même temps sur le terrain. Et puis, à côté de ça, Randall. Bah si, finalement, je vais avoir un truc à dire sur Randall. Randall, c'est spécial. Je fais un appel, c'est l'appel tout droit et je ne sais pas en faire un autre. Mais sinon, les seuls moments où il était intéressant, quand il était sur le côté. Et quand tu vas avoir Ramos et Mbappé, bah, j'ai l'impression qu'ils ont un peu tendance à se marcher sur les pieds. Et c'est un truc, c'est qu'on a soit vu l'un, soit vu l'autre. Et on a rarement vu les deux ensemble. Et il faudrait qu'on travaille sur les deux ensemble. Il faudrait que Mbappé soit plus sur un côté. Mais pour l'instant, Enrique préfère le mettre dans l'axe. Et en effet, t'avais trop de disparités au niveau des appels. Enfin, il y avait un manque de cohésion dans la ligne offensive. Mais indépendamment du manque de cohésion dans la ligne offensive, ton milieu, il n'est pas à la hauteur. Alors, je pense que oui, je pense qu'effectivement, il nous manque un homme, il nous manque une personne qui est capable de faire ce lien. Mais t'es en droit d'attendre plus malgré tout. Et tu peux pas juste te réfugier derrière les offensives qui sont là parce que. Mine de rien, enfin, tu le vois pendant toute la première mi-temps, on est quand même vachement dans le camp adverse. On est quand même vachement dans le camp adverse. T'as Orléans qui sort relativement peu, ils ont quelques contres, mais mine de rien, on arrive relativement bien à les tenir, même si encore une fois, on prend un but qu'on doit éviter parce qu'on est incapable de défendre sur les coups de pied arrêtés. Mais on
Il
doit
est de
proposer
retour.
mieux. Il y a quelque chose d'intrinsèquement lent. Dès qu'on veut aller vers l'avant, indépendamment des offensifs, indépendamment des appels qui sont faits. Et mine de
Bah, moi,
rien,
je pense que c'est
il y
une.
a pas mal de mouvements. Et quand tu regardes l'équipe, il y a quelque chose d'intéressant avec Enrique. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. C'est que tous les joueurs bougent. Mais qu'est-ce que ça bouge lentement? Dans les intentions, il y a des touches de balle, il y a des machins. Il manque toujours un truc, il manque toujours une petite accélération qui fait que dès que tu as une équipe qui va être un peu regroupée comme l'était, et d'ailleurs, faut féliciter Orléans pour la qualité de leur match, parce que mine de rien, ils ont fait un match qui était relativement intéressant, où ils ont proposé à la fois un bloc regroupé, mais qui n'était pas forcément un bus. Mais par rapport au bloc regroupé, on est incapable de trouver des solutions, on est incapable de trouver des accélérations, et il y a quelque chose de fondamentalement frustrant, quoi.
Bah, c'est surtout que le fait qu'on manque de créativité. Mais ça fait depuis quand même un moment qu'on le critique au Paris Saint-Germain. Depuis le début de la saison, qu'on dit qu'à chaque fois, quand on joue, qu'on fasse un bloc regroupé, on a du mal parce que ça joue à la baballe, mais ça espère en fait qu'il y ait une solution sur un côté. Mais dans ce cas-là, comment tu peux créer si tu n'as pas de créateur? Donc à la fin, c'est le principal problème de ce Paris Saint-Germain-là depuis le début de la saison. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que, malheureusement, à part faire un recrutement et de recruter, mais le problème, c'est que quel milieu créateur aujourd'hui serait disponible en plein milieu d'hiver? Ça, c'est une question qu'il faudra se poser, quoi. Mais c'est ça, qui est en fait le gros problème du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle.
C'est qu'on accumule trop le même poste en fait. Déjà, on a Fabien Ruiz, c'est pas un 10, c'est pas un 6, c'est un 8. On a Vitinha, c'est pas
Pour
un
moi, c'est un
6, c'est pas un
6.
10, c'est un 1. Ruiz?
Pour moi, c'est un 6. Pour moi,
Ruiz?
c'est un mec qui c'est ouais. C'est un mec qui va
Voilà.
te
On a
Alors,
beaucoup
avec le
recycler
ballon,
les
il
ballons. Joue plus relayeur.
Alors,
Hein. Il joue
j'en ai
beaucoup
parlé
plus
ce
relayeur en
midi. Non,
Napoléon.
parce que justement, il a pas la qualité d'appel dans les 30 derniers mètres, il n'a pas de qualité, alors que justement, techniquement, il c'est un joueur sûr, contrôle passe, il va t'assurer les passes, tu vois, il va t'assurer de
Alors,
calmer le
Naples, le
jeu et
ballon,
de.
oui.
Naples, il a fait
Alors,
des bons matchs
Ruiz,
en
avec le
sélection.
ballon, techniquement, il est capable de jouer 6 sous Luis Enrique. OK. Et sans le ballon?
Ben, sans ballon,
Sans ça.
il a une réputation de mauvais défenseur, mais il n'est pas si mauvais que ça. Hein.
Ouais, parce que
Déjà dans
et
les.
ses stats
Alors,
le prouvent. Ses stats
déjà
le
dans les
prouvent.
airs. Bah,
Hein?
vas-y, ses stats.
Ah non,
Eric,
dans
ses
les
stats
airs,
dans
dans
les
les
airs,
airs, dans
Jay.
les airs,
Dans
on a
les
dû être
airs,
d'accord.
dans les
Et
airs,
puis même
ouais.
dans les
Bah, c'est un
duels,
problème à un moment.
dans les duels à proprement parler, il a tendance à se faire balader. Mais par contre,
Voilà.
dans sa capacité d'intervention et sa capacité à être bien placé, il est là. C'est à toi de trouver des compensations avec les autres trucs. Mais je vais dans le sens de Hergé, c'est avec les autres joueurs. C'est dans le sens de Hergé. Quand il était à Naples, il a fait des matchs où il était 6, il était très intéressant.
Et
Il y avait
après, vous
Zambon
l'avez
qui était à
dit.
côté. C'est plus en tant
Après,
que
vous.
relayeur. Et en fait,
Ah,
moi,
il y
il y
a
a.
Zambon qui est à côté. Merci,
Mais par
Darias.
contre, moi, il y a un truc qui me dérange avec Fabien Ruiz, c'est le fait que ce mec soit mauvais sur les coups de pied arrêtés et notamment sur les duels aériens, alors
Ouais,
qu'il fait quand même plus d'un mètre
ça c'est inquiétant.
90.
Ça c'est
Voilà,
inquiétant. Mais
merci.
j'ai l'impression que C'est le
Ça,
cas
j'aime
de
pas, c'est
beaucoup
ça.
de joueurs. C'est le cas de beaucoup de joueurs qui sont grands dès qu'ils arrivent au
Souvenez-vous.
PSG.
Mais
Alors non, c'est beaucoup
C'est
de bons
inquiétant.
joueurs.
Il y a
Parce que
beaucoup de gros
souvenez-vous,
grands joueurs qui.
Vas-y, Erwin,
c'est
Gérard,
un
oui.
petit détail à la con, hein. Mais rappelez-vous, lors du match, je crois que c'était contre Lens la saison dernière, quand on gagne 3-1 au Parc, comment on se fait manger sur le coup de pied arrêté quand il y a pénalty justement pour Lens à ce moment-là? Tu dis, non, mais attends, le mec, il fait plus d'1,90 m, mais il n'est pas capable de. Justement, et je crois que. Je crois que c'est la page de Napoli France qu'il avait fait à ce moment-là. Fabian Ruiz, en termes de duel aérien, la saison d'avant en Serie A, c'était l'un des pires. C'était clairement l'un des pires.
Inquiétant.
Et tu dis quand même, un défenseur de son gabarit, c'est quand même assez inquiétant quand même en soi. Donc tu dis quand même que. Alors, on ne demande pas à ce qu'il soit un stopper comme Sergio Ramos ou Pepe, un truc comme ça. Mais tu te dis quand même,
Mais les qualités sont
au
pas.
plus haut
Enfin, le
niveau.
truc, c'est que tu as plusieurs manières de défendre. Il n'y a pas que le fait d'être bon dans les duels, de machin. Après, comme le disait tonton, c'est quand il était à Naples, il y avait un milieu qui était extrêmement complémentaire avec lui.
Voilà.
Mais c'est à toi de le trouver. Et le truc, si tu veux, c'est que ce milieu-là, en fait, si tu regardes bien Warren peut tout à fait être ce milieu-là. Alors,
Justement.
t'auras un souci de la tête qui a été résolu à Naples, qui ne serait pas forcément résolu avec Warren, parce que je ne suis pas sûr que Warren soit monstrueux de la tête, mine de rien.
Et au milieu,
Mais
personne ne le règle ce problème, justement.
avec les deux, tu peux développer une complémentarité où tu vas pouvoir trouver une réponse cohérente. Après, on est d'accord, hein, Ruiz,
Un
surtout le Ruiz
remplaçant.
qu'on a récupéré, normalement, il n'est pas titulaire. Mais par rapport à
Voilà.
l'absence de choix, par rapport à
Mais
l'absence de
personne
choix
n'a parlé
qu'on
de
a au
ça, c'est ça le
milieu,
truc.
par rapport à l'absence de choix qu'on a au milieu et un Ugarte qui mine de rien, n'est pas du tout compatible avec Henrique, bah, tu es obligé de commencer à réfléchir à Ruiz, même si Reggie le Sauvage ne peut pas le supporter. Tu es obligé de commencer à réfléchir à Ruiz comme une réponse cohérente. Et je pense que en réfléchissant et en jouant intelligemment, tu vas le faire. Et je pense d'ailleurs qu'Henrique avait l'intention de le faire parce que juste avant que Ruiz se pète en décembre, il commence à enchaîner les titularisations et pas qu'un peu, quoi.
Je pense que s'il était titulaire, je pense que c'est lui qui aurait démarré en 6 face à Dortmund, au match retour.
Oui, parce que c'est ce qui peut le plus techniquement être amené à jouer à ce poste, mais sinon,
Mais du coup,
compliqué.
mais juste pour compléter en une phrase, Vitinha et Ruiz, c'est pas complémentaire du tout. En fait, c'est ça le
Voilà.
problème.
C'est ça, les deux, c'est des 8.
Et très rapidement, enfin, Sébastien, si tu n'avais pas capté, Sébastien Jiménez, c'était une grosse erreur de ma part. Je suis désolé, c'était une erreur de ma part. C'était pas du tout destiné. Cédric, je voulais pas le virer avant, mais il y a un moment où il lâchait pas le truc et il fallait. Voilà. Et c'était vraiment une erreur de manipulation de ma part. J'espère que tu n'as pas mal pris et toutes mes excuses, si c'est le cas. Pardon, excusez-moi, je voulais juste préciser
Il
ça.
n'y a pas de problème. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le cas Fabian Ruiz tant qu'on y est?
Je pense que tout a été dit, hein. Le fait que,
Oui,
comme tu
voilà.
as dit tout à l'heure, le fait que les deux ne soient pas complémentaires. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les deux marchent beaucoup trop dessus. Et franchement, sur le match, on l'a quand même vu à pas mal de reprises. Alors, pas tout le temps, mais on l'a quand même vu à pas mal de reprises où Vitinha et Fabian Ruiz, il y en a un qui était sur le côté de l'autre. Ils étaient constamment comme ça. Et tu te disais, mais en fait, il n'y avait pas de solution qu'on arrivait à trouver, quoi. Donc. C'est vrai que de mettre les deux comme ça titulaires dans ce genre de match, ça peut être compliqué.
Et juste bah, pour finir, je
Vas-y.
vais être bref. Vas-y, pardon, dis-y.
Non, mais il y a un truc qui est juste, c'est-à-dire que Rui Soler et Kitike, ça me rappelle Galtier, il a raison là-dessus, c'est-à-dire
Je
qu'on
pense
est,
que
on
oui.
est, on est vachement emprunté de ce qui s'est passé l'année dernière, des symboles de l'année
Mais
dernière, de
justement,
la
je vais
manière avec
expliquer.
laquelle. Et du coup, quand tu les revois cette saison, tu n'arrives pas non plus à te départir. Le Ruiz sous Henrique n'est plus, vraiment plus le même que sous Galtier.
Mais en
Mais
fait,
je te laisse y aller.
déjà, en fait, ce qu'on demandait à Vitinha et Ruiz, qu'ils ont joué une bonne partie de la deuxième saison ensemble, déjà, je le répète, ce sont deux joueurs qui ne sont pas compatibles, qui ont joué ensemble dans un double pivot, ce qui est déjà assez paranormal. Ensuite, ils jouaient avec Messi, Mbappé, Neymar, qui ne défendaient pas du tout. Ensuite, ils demandaient le ballon uniquement dans les pieds, ce qui fait que Vitinha, on lui demande de jouer derrière un défenseur, donc de courir, mais on lui demande aussi de faire la relance. Donc on lui demande de faire la relance, de jouer la profondeur, et ensuite de revenir défendre. Non mais ça y est les gars, vous êtes bien gentils. Évidemment que en 3 matchs, le mec va être cramé et ne sait plus donner de la tête. Et c'est pour ça qu'on a vu deux joueurs très timides, parce que dès qu'il ratait une passe, il fallait courir partout, il fallait... En fait, il faut voir au-delà de la timidité, il faut voir les déplacements, il faut voir comment se comportent les joueurs sans le ballon. Et vraiment, c'était plus possible. Là, je pense que Vitinha, on n'a pas encore vu tout ce dont il est capable. Ça va venir, ça prend du temps, qu'on se le dise. C'est pas encore un joueur de classe mondiale, mais je pense que s'il est bien développé, il peut le devenir. Moi,
Ah,
je le
s'il prend
pense.
l'habitude de parler sans micro, vas-y Darius, si tu veux rajouter quelque chose, je crois.
Bah, il est... Non, sur Viti, il est intéressant. Après, le problème, c'est... En fait, pour moi, Viti, c'est le troisième joueur du milieu. C'est-à-dire qu'il nous manque le 6, il nous manque le 8 un peu plus haut. Et Viti, c'est le mec qui est parfait. Ou sinon, comme il jouait à Porto, dans un milieu à deux avec un joueur plus créatif, on attend
C'est un
de
milieu à
Vitinha
quatre,
qui
même
soit...
à Porto.
On attend de Vitinha qu'il soit très créatif. C'est pas forcément son rôle. Il est capable d'apporter une valeur ajoutée qui est devant, mais ce sera jamais celui qui fera très très vite la passe. Par contre, bah, s'il est bien entouré, bah, je pense qu'il aurait. Enfin, il est en train de montrer qu'il a cette valeur ajoutée. Le problème, c'est qu'on parle d'un milieu à niveau zéro. On rajoute des pièces et il nous manque tout un tas de pièces pour arriver à un milieu qui soit un peu cohérent. Et une petite dédicace à Igor, l'IA générative.
Ouais, désolé Igor, hein, je m'excuse d'être toujours aussi nul à faire des podcasts, c'est pour ça que tu continues de les regarder. Mais bon, si plus personne n'a quelque chose à rajouter, je remercie les 302 personnes qui ont regardé ce live ce soir. Si on peut avoir au moins la moitié des personnes qui sont présentes en live, ce serait génial avant de couper l'émission pour continuer à développer cette chaîne. Si vous êtes nouveau, bah, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur le podcast. On se retrouve de toute façon dès mardi pour le live habituel du mardi midi et peut-être avant pour des vidéos à court format si il y a de l'actualité chaude qui sort sur le Paris Saint-Germain. En tout cas, merci à Z d'avoir été avec nous. Merci à RG. Merci à Erwin. Et merci à toutes les personnes qui ont été présentes dans le chat. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, ici, c'est Paris.
Ciao à tout le monde.
C'est vrai.